prions ensemble. Père céleste, fais briller sur nous ta face. Ô Jésus, mon notre divin roi, à tes pieds, c'est là notre place. Fais-nous paître, nous qui sommes ton troupeau. Parle-nous, Dieu puissant, par ta parole. Donne-nous des cœurs malléables, des cœurs réceptifs, des cœurs obéissants pour recevoir ta parole, avec joie, avec révérence, avec foi, avec obéissance. Nous prions ça pour la gloire de Jésus. Amen. Voici prendre place. Alors moi je constate ici, quand j'ouvre le feuillet, si vous prenez le feuillet, vous avez le texte que nous allons lire ensemble. Juste en dessous, aujourd'hui nous prions pour l'implantation d'église à Louvain-la-Neuve. C'est ce que nous allons faire après la prédication. Mais on voit qu'il y a une semaine d'événements, pour voir la bonne nouvelle de Jésus progresser. C'est ce qu'on a eu, un événement vendredi, n'est-ce pas, en tant qu'église. Et quand on y pense, en tant que chrétien, on sait qu'on est appelé à être impliqué dans le progrès de la bonne nouvelle, dans la croissance du royaume de Dieu. C'est un peu des synonymes, c'est des concepts, mais c'est la même chose. Pour que le royaume de Dieu grandisse, le peuple de Dieu grandisse, en fait, il faut que l'évangile progresse. Et quand vous y pensez vous-même à votre propre implication dans ce progrès de l'évangile, je me demande, peut-être vous dites « j'ai une bonne nouvelle », quand, si on pouvait dire ça comme ça, vous êtes plus à l'aise pour partager, vous êtes plutôt quelqu'un qui a le langage facile avec les gens, mais se retrouver seul et prier, vous trouvez ça plus difficile? Ou peut-être vous dites, en plus de ça, ben, pour atteindre pour les gens, pour voir l'évangile progresser, c'est plutôt vivre d'une manière différente, comme on a vu il y a deux, trois semaines de cela, dans Matthieu 5, versets 13, 14 ou 14, 15. Aujourd'hui, on va voir un texte, Colossiens 4, versets 2 et 6. On va voir une vérité qui devrait profondément façonner chacune de nos vies en tant que chrétiens. Si on perd de vue ces vérités bibliques, on va voir que nos vies ne vont pas s'aligner avec la stratégie, le plan de Dieu pour voir la bonne nouvelle la bonne nouvelle de Jésus progresser. On va voir dans ce texte que Dieu veut encourager son Église, ses enfants, les chrétiens, à être complètement engagés dans le progrès de l'Évangile. On va voir que des personnes qui sont sauvées par Jésus, par la croix, qui sont transformées et qui sont captivées par Jésus, sont appelées à proclamer l'Évangile proactivement et à prier avec persévérance pour voir cet Évangile progresser. Alors je veux tout de suite dire que je suis quelqu'un qui est de la même trempe que vous. Je n'ai pas toutes les solutions et je lutte comme vous. Je pense que quand on pense à l'implication des chrétiens, on pense à notre expérience, c'est quelque chose avec lequel on lutte tous, cette implication pour le progrès de la bonne nouvelle, dans une mesure ou une autre, de manière plus ou moins intense. Ou peut-être que c'est constamment que vous luttez avec votre implication dans le progrès de la bonne nouvelle. Je parle en tant que quelqu'un qui lutte avec les mêmes difficultés que vous. Donc nous allons nous mettre à l'écoute de la parole ensemble, faisant face à ces mêmes défis. Et lors de nos échanges, par exemple, durant le café ou à d'autres moments, ne le cachons pas que nous luttons avec ces choses-là. Cela aide en fait de partager nos difficultés dans ces domaines, comme dans d'autres, mais dans ces domaines particulièrement, pour justement s'encourager à persévérer. Alors les versets qu'on va lire, c'est chapitre 4, versets 2 à 6 de Colossiens, mais pour bien apprécier ce texte, il faut considérer le contexte. Dans la première partie de sa lettre aux Colossiens, au chapitre 2, 1 et 2, l'apôtre Paul veut nous convaincre que Jésus seul, c'est en Jésus seul qu'est la plénitude divine. Et qu'en s'attachant à lui seul, on peut connaître nous-mêmes cette plénitude divine. On peut connaître la satisfaction profonde que seul Dieu nous donne par Jésus. Et c'est uniquement chapitre 1, verset 20, par Christ qu'il réconcilie lui-même toutes choses, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. En ce que Jésus a pris nos péchés, c'est ça la bonne nouvelle, Jésus a pris le poids de nos péchés, de notre rejet de l'autorité divine sur lui-même pour nous donner la paix avec Dieu. En acceptant ce message, nous connaissons la plénitude divine, nous attachons à Jésus seul. Et après, au chapitre 3, versets 1 et 4, Paul décrit ce qui devrait caractériser la vie de tout disciple, de tout chrétien, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés par lui, transformés par lui, captivés par Jésus, qui est notre Sauveur et Seigneur. Il dit ceci, ça vaut la peine de lire ces versets, parce que c'est un peu des versets programmatiques ou des principes généraux qui font que tout le reste découle dans la suite de la lettre. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Je suis au chapitre 3, verset 1 là. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ce verset nous enseigne que le peuple de Dieu qui est sauvé par Jésus, qui est passé de la mort à la vie spirituelle. Ce peuple devrait être captivé par lui et non par le terrestre. Ce qui devrait le captiver, ce n'est plus la satisfaction de ses désirs terrestres, mais Jésus qui est au ciel. Et en gros, maintenant, les chrétiens devraient vivre plus en adéquation avec la vie qu'ils vivront au ciel. Alors ça pourrait paraître un peu nébuleux tout ça, un peu abstrait. À quoi ça ressemble concrètement? Eh bien dans les versets 5 et suivants du chapitre 3, et jusqu'à la fin en fait de cette épître, et y compris nos versets, Paul nous donne des exemples. Verset 5 du chapitre 3, on fait mourir ce qui est terrestre en nous, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle et la soif de posséder. Verset 6, on renonce à la colère et on utilise notre langage pour édifier les autres plutôt que les détruire. Et maintenant, si on fait un saut au chapitre 4, versets 2 et suivants, ceux qui sont les chrétiens, les pécheurs sauvés, transformés, captivés par Christ, sont appelés à persévérer dans la prière et dans la proclamation de l'Évangile. Pourquoi ? Justement pour voir cet Évangile progresser. Voici ce qu'il dit. Chapitre 4, versets 2 et 6. À 6. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Avant de voir ce que nous sommes appelés à faire en pratique à la lumière de ces versets, il est d'abord important de savoir comment l'Évangile, comment la bonne nouvelle de Jésus progresse dans le monde. Et ça va peut-être sembler basique pour plusieurs d'entre vous, mais c'est critique, c'est crucial de se le rappeler même chaque jour, pour que justement on ne parte pas en tangente dans notre vie, qu'on reste concentré sur le principal pour voir l'Évangile progresser. Voici, on va voir les trois éléments essentiels qui nous montrent comment l'Évangile progresse, et après on va se poser sur la stratégie divine datant de Mathusalem, la stratégie PP, très vieille, vous allez voir. Mais d'abord, voyons les trois facteurs essentiels pour le progrès de l'Évangile. Premièrement, c'est Dieu qui fait progresser l'Évangile. Deuxièmement, c'est au travers de notre proclamation de l'Évangile. Et troisièmement, c'est en réponse à nos prières. C'est Dieu qui fait progresser l'Évangile au travers de notre proclamation de l'Évangile en réponse à nos prières. Voyez au verset 2 à 4, l'apôtre Paul demande aux chrétiens de prier. Qui ? Évidemment, de prier Dieu Pourquoi ? Pour que lui ouvre, verset 3, pour que lui leur ouvre une porte pour la parole, pour qu'ils puissent annoncer le mystère de Christ, c'est-à-dire l'évangile selon le reste de Colossiens. Et qu'il le fasse connaître, Paul, cet évangile, de la manière dont il doit en parler. Il leur demande de prier Dieu pour le progrès de l'évangile parce que, ultimement, ce progrès dépend de Dieu. C'est lui qui ouvre des portes pour que la bonne nouvelle puisse être partagée. Non seulement les occasions, mais aussi la manière, comme on va le voir. C'est lui qui le fait progresser, comme on progresse. Plusieurs vont visiter des appartements à louer ou à acheter cet été, peut-être. C'est lui qui ouvre des portes, comme peut-être l'agent immobilier ouvre des portes pour qu'on puisse visiter une maison ou un appartement. C'est Dieu qui fait progresser l'évangile. Mais comment ? Deuxième élément essentiel, c'est au travers de l'annonce, la proclamation verbale de l'évangile, au travers de la bouche des chrétiens. Verset 3, regardez. Cela inclut évidemment Paul et les autres serviteurs de la parole. Il dit « Priez en même temps pour nous, pour que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin qu'ils puissent annoncer l'évangile, le mystère de Christ, et pour qu'ils en parlent, verset 4, pour qu'ils en parlent, ils le fassent de la manière dont il doit en parler. » Et en lisant les versets 5 à 6, regardez ce texte, on voit que ça ne se limite pas aux ministres de la parole, comme les apôtres ou peut-être des évangélistes, ceux qui sont consacrés à ça à temps plein 24 heures sur 24, ou en tout cas 8 heures sur 8, sur 24, mais à tous les chrétiens, à tous les chrétiens. Il parle et s'adresse à tous les Colossiens, à tous les chrétiens de cause de l'église de Colosse. Et il dit quoi ? Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur, c'est-à-dire envers les non-croyants. Et rachetez le temps. Transposez à aujourd'hui, cette exhortation vaut pour nous tous dans cette salle qui sommes chrétiens. Mais qu'est-ce que ça veut dire se comporter avec sagesse envers les gens de l'extérieur ? Qu'est-ce que ça veut dire racheter le temps ? Quel est le rapport avec cette stratégie ? Verset 6, on voit que le verset 6 explique le verset 5. On voit que c'est encore une histoire de partage de la parole, vous voyez ? Mais que ça vient cette fois-ci de notre bouche à nous, enfin tous les chrétiens lambda. La parole des chrétiens de Colosse, notre parole à nous, chrétiens du XXIe siècle, doit toujours être remplie de grâce. Que votre parole soit toujours pleine de grâce, c'est-à-dire remplie de la grâce de Dieu, de Jésus-Christ, du message qu'on a lu dans Tite, qu'on est sauvé, des pécheurs sauvés par grâce. C'est un cadeau. Mais aussi rempli de grâce dans le sens respectueux, doux. On va voir un peu plus là-dessus tout à l'heure. Rempli de la bonne nouvelle. Mais c'est une question de parole ici. C'est une affaire de parole, parole de tous les chrétiens. Et c'est pour qu'on sache comment répondre, fin du verset, à chacun. Répondre, pas juste n'importe quelle question, mais il s'agit de la parole, l'évangile. Répondre par rapport à l'évangile, à des questions qu'il pourrait avoir. Donc c'est Dieu qui fait progresser son évangile au travers de l'annonce de l'évangile de tous les chrétiens, ministres de la parole, apôtres, évangélistes, mais aussi n'importe quel chrétien. C'est comme ça que Dieu fait progresser son évangile. Troisième élément, il fait ceci en réponse à nos prières. Oui, parce qu'au verset 2 à 4, qu'est-ce que Paul fait ? Qu'est-ce que Paul demande aux chrétiens de Colosse ? Mais il leur demande de prier. De prier que Dieu fasse progresser l'évangile au travers de leur propre annonce de l'évangile, de la bonne nouvelle. Prier en même temps pour nous, que Dieu ouvre des portes. Et aussi, non seulement que Dieu ouvre des portes, mais que Dieu nous permette de parler comme il le faut. Et même si au verset 5 et 6, où on trouve l'exhortation aux chrétiens de eux-mêmes avoir leur parole assaisonnée de sel, de eux-mêmes proclamer l'évangile, même si on n'y trouve pas une prière là, eh bien si les chrétiens de Colosse sont appelés à prier pour Paul, le grand apôtre Paul, pour sa propre proclamation de l'évangile, eh bien je pense que même si on ne trouve pas l'exhortation aux chrétiens ici de prier les uns pour les autres, on trouve ailleurs dans la parole. On a besoin nous-mêmes de prières, de prier comme on a prié pour Johnny qui a proclamé lors d'un événement vendredi soir, mais aussi de prier les uns pour les autres, pour notre partage de l'évangile au quotidien ou durant des événements de manière informelle. Comment donc l'évangile progresse-t-il ? C'est Dieu qui le fait progresser. Il le fait progresser au travers de la proclamation de ses enfants en réponse aux prières de ses enfants. Alors on a dégagé ces trois éléments essentiels. Voyons comment la connaissance de cela transforme notre manière de penser d'abord. Avant de dire, proclamer, prier, on va devoir forcément voir cela, mais comment est-ce que ça change notre perspective, notre manière de penser ? Si l'évangile progresse tandis que Dieu répond à nos prières et pour qu'il progresse, eh bien, ça dépend ultimement de Dieu, n'est-ce pas ? Ça dépend ultimement de Dieu. Et c'est tellement libérateur, n'est-ce pas, que ça dépend de lui et pas de nous. Si c'est ultimement Dieu qui ouvre des portes pour notre annonce de l'évangile, mais ça veut dire que ce n'est pas nous qui les ouvrons. C'est simple peut-être, mais ce n'est pas nous par notre force de persuasion, la qualité de notre organisation ou de nos stratagèmes ou stratégies. Non, c'est lui. C'est lui qui a la puissance pour donner des circonstances favorables pour cette proclamation, une bonne ou une meilleure météo que durant la journée. Vendredi passé, je me souviens, Ben qui a envoyé un message et il dit « Venez quand même, je sais il pleut, mais... » Et Dieu a permis une météo assez clémente pour finir. C'est lui qui permet ça. C'est une manière pour lui d'ouvrir des portes. C'est lui qui a permis que Don Bosco accepte, que les autorités de Don Bosco acceptent de tenir un tel événement-là. C'est lui qui ouvre des portes dans cette manière, là aussi. On va devoir changer de bâtiment bientôt. Prions pour ces relations avec ces autorités-là pour que, justement, Dieu ouvre des portes dans le même sens, pour que l'évangile puisse progresser de par des événements, entre autres. Et c'est lui aussi qui peut faire qu'une discussion qu'on a avec un collègue ou un voisin ou quelqu'un, un ami de l'université ou de l'école, puisse déboucher de manière étonnante sur l'évangile, quand on ne s'y attend pas. Oui, par l'œuvre de son esprit, c'est lui qui donne la faim spirituelle à des personnes qui, d'elles-mêmes, ne s'intéresseraient pas du tout à Jésus. En Actes 11, verset 18, on apprend d'ailleurs que c'est Dieu qui accorde la repentance lui-même. En Éphésiens 2, verset 8, on voit que c'est Dieu qui donne la foi. Vous voyez, c'est... L'évangile progresse et ça dépend ultimement de Dieu. Et si vous doutez de la puissance de Dieu pour ouvrir toutes ces portes, alors souvenez-vous de l'exemple de l'apôtre Paul lui-même. À quel point il était endurci. Mais l'évangile a même progressé jusqu'à lui. Si vous en doutez, vous dites, oh, c'est il y a 2000 ans, mais pensez à vous-même. Ou posez des questions à d'autres chrétiens ou des chrétiens que vous pouvez rencontrer dans cette salle. Soyons reconnaissants que l'évangile ait pu progresser jusque nous et que Dieu a ouvert toutes les portes nécessaires. Monique me disait jeudi après-midi, que Dieu a utilisé un flyer que Samuel avait mis sur son pare-brise tandis qu'ils étaient à la Commission européenne. Dieu a la puissance d'ouvrir des portes. Il a toujours œuvré ainsi, il œuvre comme ça encore aujourd'hui, c'est ainsi qu'il œuvrera encore jusqu'au retour de Jésus. Soyons-en confiants. C'est tellement libérateur, n'est-ce pas ? Et heureusement d'ailleurs, sinon l'évangile n'aurait pas progressé et ne progresserait pas encore bien loin. Non seulement ça, mais verset 4, le fait que Paul demande aux chrétiens de prier pour qu'ils fassent connaître l'évangile de la manière dont il doit en parler... Bien, ça nous enseigne aussi que Dieu nous rend capables lui-même de parler comme il le faut. Ça veut dire que si on a pu bien partager l'évangile à un moment donné, on ne peut pas en être fier. On ne peut pas en être fier, on ne peut que remercier Dieu, parce que c'était grâce à lui. Et ça veut dire qu'on peut être relax. On ne doit pas perdre le sommeil sur le fait de « Ah, si on me pose cette question-là » Et juste avoir une crainte qui nous envahit de sorte qu'on ne va pas parler tant qu'on n'a pas eu toutes les formules et les réponses à toutes les questions qu'il faut. Non, c'est Dieu qui va nous rendre capables sur le moment donné. Alors, cela étant dit, Paul dit bien au verset 4, n'est-ce pas, qu'il avait le souci de parler comme il le fallait. Et quand on lit les Actes, on voit qu'il faisait un effort de parler, de partager l'évangile de manière adaptée à ses différents auditoires. Tantôt les Juifs, ils citaient beaucoup l'Ancien Testament, et tantôt les Grecs, ils citaient moins l'Ancien Testament, même s'ils partageaient l'évangile de toute manière. Et donc ça veut dire qu'il y a une manière de partager la bonne nouvelle. Le fait que Dieu soit souverain ne va pas dire qu'on y va et on s'en fout de la manière dont nous on va parler. Non, Dieu se sert de notre parole pour partager l'évangile. Et donc, nous devons nous préparer. Formation et foi. Profitons-en. Je sais que dans le passé, il y a eu des formations pour justement comment partager l'évangile. Il y a des séminaires à l'Institut biblique de Bruxelles, des séminaires ponctuels ou des webinaires, etc. Profitons aussi de nos responsables qui non seulement nous enseignent pour être affermis dans la foi, mais aussi pour savoir comment articuler, comment avoir la parole assaisonnée de sel, remplie de grâce. Profitez des GBU, vous qui êtes étudiants. Au GBU, on va voir les étudiants être des gens qui connaissent Jésus eux-mêmes, mais qui le font connaître à d'autres. Prenez note de Héro, notre conférence annuelle, c'est le 8 février 2025. Et le but de cette conférence, c'est simple, c'est de vous motiver, de vous voir équipés pour proclamer la bonne nouvelle. Cela dit, je réalise qu'il se peut que la souveraineté de Dieu dans le progrès de l'Évangile nous rende peut-être un peu fataliste. Il se peut qu'on en arrive à dire parfois, si Dieu va faire progresser son Évangile comme il veut, alors il n'y a pas besoin de moi. Peut-être que vous avez déjà pensé à ça, ou comme ça. Mais non, non. On a vu que la manière dont il a choisi de faire, lui, dans sa souveraineté, la manière dont il a choisi de faire progresser la bonne nouvelle, c'est à travers l'engagement de ses enfants. D'une certaine manière, Dieu, il n'aurait pas eu besoin de nous pour faire progresser l'évangile. Il aurait pu juste avoir Jésus qui apparaît dans le ciel et qui explique lui-même à tout le monde, la croix, voilà ce que j'ai fait à la croix, etc. Ou il aurait pu envoyer des anges. Mais il n'a pas choisi d'œuvrer comme ça pour le progrès de la bonne nouvelle. Non seulement il nous a graciés et sauvés, quel amour, mais quel privilège, les réceptacles de sa grâce, de cette bonne nouvelle, de ce salut en Jésus, il les implique eux-mêmes pour répandre ce message de grâce. Quel privilège, non seulement d'être bénéficiaire, mais d'être vecteur, ensemble, de cette grâce. Dieu n'a pas besoin de toi, mais Dieu choisit de nous utiliser, nous qui sommes chrétiens, pour le progrès de l'Évangile. Considérons cela comme un privilège et considérons la souveraineté de Dieu dans ce progrès de l'Évangile comme quelque chose de libérateur et que nous pouvons y aller sans crainte et dans la confiance non en nous-mêmes, mais en lui. Alors, je pense que oui, il faut qu'on y soit engagé et il faut qu'on soit focalisé sur la stratégie datant de Mathusalem, la stratégie PP, très vieille, PP, proclamation proactive et prière persévérante pour le progrès de l'Évangile. Proclamation, deuxième point, vous inquiétez pas, ce sera plus court que le premier point. Mais il faut que nous soyons, que nous proclamions l'Évangile, nous qui sommes chrétiens, proactivement pour qu'il progresse. On voit ça un peu au travers de tout le texte, versets 2 à 6. On l'a déjà vu, n'est-ce pas? Dieu fait progresser la bonne nouvelle de Jésus à travers notre proclamation, celle des ministres de la parole consacrés à temps plein et payés. Mais du coup, alors, il faut qu'on proclame pas se reposer sur... Alors, bien sûr, faire du bien à notre prochain honore Dieu. Ça honore Dieu. D'une part, nos mauvaises attitudes peuvent discréditer la bonne nouvelle de Jésus et même rebuter les gens. Il faut qu'on fasse vraiment attention à notre témoignage chrétien, à notre vécu, que ça ne discrédite pas le message dans lequel nous croyons et que nous voulons proclamer. Et d'autre part, Dieu utilise parfois le bien qu'on pourrait faire aux autres pour interpeller les gens. Mais puisqu'il faut croire en Christ mort et ressuscité pour être réconcilié avec Dieu, eh bien, il faut donc en parler. Ce n'est pas juste en faisant du bien que les gens vont entendre ce message. Il faut qu'il y ait des mots qui sortent de nos bouches. Oui, l'évangile ne progressera pas sans qu'on le proclame, sans qu'on l'annonce. Et personnellement, je trouve que les versets 5 et 6 représentent des défis pour moi. Si vous regardez ces versets 5 et 6, premièrement, verset 5, est-ce qu'on peut dire qu'on rachète le temps pour partager l'évangile avec nos proches? Alors, ce que je veux dire ici, ce n'est pas pour être culpabilisateur, c'est juste, c'est bien parfois de prendre du recul et de faire une auto-évaluation, une analyse de soi. Est-ce qu'on peut dire qu'on rachète le temps pour partager l'évangile avec nos proches? Avons-nous le temps? Prenons-nous le temps? Comme le progrès de l'évangile est la priorité de Dieu d'ici le retour de Jésus, alors en voyant nos agendas, est-ce qu'il y aurait un autre moment qu'on pourrait dégager, qu'on pourrait garder libre peut-être pour éventuellement avoir des échanges, inviter quelqu'un à aller boire un café, boire une bière, on est en Belgique ici, n'est-ce pas? Aller voir un match de foot, lundi soir. Faites gaffe si c'est avec des Français, vous aurez peut-être du mal à partir. Je rigole. Mais dégageons ayons du temps libre. Deuxièmement, verset 5 toujours. Est-ce qu'on se conduit avec sagesse envers les gens de l'extérieur? Est-ce que notre verset 6, notre parole est toujours remplie de grâce? Est-ce qu'on retrouve, on cherche à avoir des éléments de la bonne nouvelle? Je ne dis pas que c'est facile, mais est-ce qu'on essaie d'avoir des éléments de la bonne nouvelle? Pas forcément toute la bonne nouvelle en une discussion, mais est-ce qu'on profite parfois de l'occasion des torts qui ont été faits pour parler peut-être de péché de manière accessible? Est-ce qu'elle est remplie de grâce en ce qu'elle est respectueuse et douce et gracieuse? Alors, on peut être tellement reconnaissant, n'est-ce pas, pour les gens qui ont racheté le temps envers nous. Je regarde ce verset, et oui, ces versets, je vois les défis pour moi, mais en fait, je me pose et je regarde ces versets, je me dis merci Seigneur pour telle et telle personne qui a racheté le temps, qui n'a pas trouvé que passer du temps avec moi pour me partager la bonne nouvelle, c'était trop une corvée, trop, il comprenait pas, oh, j'ai déjà dit deux fois, non, merci Seigneur pour ces personnes qui ont racheté le temps, qui se sont conduites avec sagesse envers moi. Je sais que de ma propre expérience, ce n'est pas facile, mais réfléchissons ensemble à différents moments, à comment on pourrait avoir notre parole assaisonnée de sel, c'est-à-dire comment elle pourrait être compréhensible et pertinente pour qu'elle provoque la réflexion et les discussions. J'ai entendu un pasteur en Angleterre qui, alors évidemment, lui était occupé le dimanche dans le sens qu'il avait, il était à ma place, il prêchait, mais il disait que quand on lui demandait à quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui n'était pas forcément croyant, quand on lui demandait « qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?», mais il ne cachait pas le fait qu'il avait été à l'église. Et c'est ce qu'on, peut-être qu'on, ça commencerait par là, peut-être si demain, après-demain, il y a des collègues « qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?» Il faisait beau, hein. Je fais « ouais, tu peux pas. » Parlons du samedi, mais pas juste du samedi. Ah, mais c'était dimanche. Alors, le pasteur avait dit quelque chose du style « oh, j'ai fait quelque chose de critique pour rester en vie. » C'était un peu « ah ouais, qu'est-ce que tu veux dire ?» En fait, j'étais à l'église. Quoi, comment aller à l'église et critique pour que tu restes en vie? Vous voyez un peu? Et donc ça peut être une manière d'avoir notre parole assaisonnée de sel. Et puis là, on explique comment c'est critique pour nous d'être à l'église. Ce n'est pas un acte religieux. C'est pour qu'on s'accroche à la bonne nouvelle dans le fait que Jésus ait pris le jugement, la punition. Vous voyez, tandis que je parle là, si je parle avec quelqu'un de l'extérieur, il faut qu'on fasse gaffe au vocabulaire, au jargon qu'on emploie. Si je dis, j'étais à l'église pour entendre parler du message de la rédemption pour le pardon ou pour l'absolution de mes péchés. Il va dire, ouais, c'est bon, tu m'en parles demain, hein, ciao. Mais parlons aussi à les uns aux autres pour savoir comment on pourrait justement communiquer ces vérités essentielles de l'évangile d'une manière simple et claire. Que la forme ne soit pas une raison d'exclure le fond du message. Je sais que Benjamin et d'autres sont excellents. Et vraiment, chaque chrétien ici, et d'autres personnes, même qui ne sont pas consacrées et payées pour cela, sont excellents. Parlons-en autour du café. Pour justement s'équiper les uns les autres en vue de faire cela. Et faisons ça, tout cela, tout en priant. Tout en priant. Et là, je parle comme quelqu'un qui lutte parfois avec ça. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'entreprenant qui parle plus facilement de l'évangile. Et donc, ici, je veux me laisser enseigner par Dieu tandis qu'on regarde ce texte-ci, cette partie ici. J'ai l'impression d'être passif quand je prie. Est-ce que je suis le seul? J'ai pas l'impression d'être hyperactif. Je dis, mais il faut aller proclamer. Mais considérons ces versets. On a bien vu, on a bien compris. Si Dieu fait progresser son évangile, c'est par la proclamation de ses enfants, justement de cet évangile. Mais c'est en réponse à nos prières. Nous devons donc persévérer dans la prière pour le progrès de l'évangile. Et c'est bien ce que Paul demande aux Colossiens, n'est-ce pas? Persévérer dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance, priez, ou dans une traduction plus littérale, c'est en priant que Dieu ouvre des portes pour la parole. Nous devons prier, persévérer dans la prière pour que Dieu ouvre des portes pour la parole, des portes pour la proclamation formelle lors d'un événement, mais aussi des portes pour chacun d'entre nous tout au long de la semaine. Parce que c'est ce vraiment à quoi Dieu nous appelle. Racheter le temps, c'est pas juste pour un événement ponctuel, un vendredi soir dans un mois, mais c'est tout au long de la semaine. La persévérance demande des efforts, n'est-ce pas? Moi, je suis quelqu'un qui a du mal avec ça. Sarah en témoignera. Je suis pas quelqu'un de hyper persévérant. Ça demande des efforts, ça demande de la détermination, d'être intentionnel, et ça coûte. La prière persévérante pour le progrès de l'Évangile, à quoi ça ressemble? À quoi est-ce que cela ressemble? Ça me fait penser à ma mère qui a prié pour moi régulièrement pendant plusieurs années, au prix de peut-être plusieurs heures de sommeil, j'imagine, pour que finalement, il y a 20 ans, je plie le genou devant Jésus. Ça me fait penser au rayon de prière de l'Église, comme celle qu'on aura jeudi soir, où on se soucie du progrès de l'Évangile, non seulement dans notre quartier, mais même dans notre sein, parmi nos enfants qui sont en train d'entendre l'évangile à Don Bosco. L'évangile a besoin de progresser là aussi. Et nous voulons prier ensemble, comme tout à l'heure aussi, pour Louvain-la-Neuve, l'église de Louvain-la-Neuve qui a une semaine d'événements. Ça me fait penser à ceux qui prient également pour l'œuvre des GBU et de l'IBB aussi. Mais des GBU aussi pour que chaque étudiant ait l'occasion d'entendre et de répondre à la bonne nouvelle. Il y a plus de 250 000 étudiants du supérieur en Belgique francophone. Nous avons besoin de supplier Dieu qu'il fasse de preuve de compassion envers eux comme il a eu compassion de nous. Prions dans ce sens. Si ces personnes persévèrent dans de telles prières, c'est parce qu'ils ont compris profondément que c'est Dieu qui fait progresser son évangile lui-même, souverainement. Et que donc prier a de l'utilité. Prier, ce n'est pas être passif. Je pense que persévérer dans la prière, en vue de cela, est quelque chose avec lequel on lutte tous à un moment donné, comme j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? À mon avis, il y a plusieurs raisons. Et je pense que la plus grande raison est lié au chapitre 3 que j'ai lu tout à l'heure, versets 1 à 4. Je pense que c'est là la plus grande raison. C'est quand nous cessons pendant un temps de chercher les choses d'en haut, d'avoir nos yeux fixés sur Christ qui règne au ciel et qui revient bientôt. C'est quand on cesse de faire cela, de chercher les choses d'en haut, les choses célestes, et qu'on regarde au terrestre et qu'on est happé, qu'on est omnubilé par le terrestre. C'est quand on oublie la grandeur de ce que Christ a fait et à quel point nous sommes dépendants de cela, mais à quel point les autres ont besoin de Christ crucifié et ressuscité. Quand on tourne le regard de cette vérité essentielle, quand on n'est plus captivé par la croix, c'est à ce moment-là qu'on lutte dans ces choses de proclamation et de prière persévérante pour le progrès de l'Évangile. Et voyez, ce que je trouve très frappant dans le verset 3 de notre passage du chapitre 4, c'est de voir l'apôtre Paul tellement captivé par Christ, qu'il se préoccupe plus de voir des portes s'ouvrir pour l'évangile que de voir les portes de sa cellule de prison s'ouvrir. Incroyable, n'est-ce pas? C'est pas qu'il ne demande jamais de prier pour sa libération, mais quand il est en prison, son plus grand souci, c'est que l'évangile progresse. Alors cela ne veut pas dire qu'on ne devrait pas prier pour que Dieu s'occupe de nous physiquement. Dans le Notre Père qu'on verra la semaine prochaine, Jésus nous exhorte à prier pour notre pain de ce jour, n'est-ce pas? Pour nos besoins physiques du quotidien. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on ne devrait pas prier pour la libération des chrétiens dans des pays où les chrétiens sont persécutés, grâce au sujet de prière de portes ouvertes, par exemple. Non. Mais si on analyse nos vies de prière, est-ce que nos prières, quand on réfléchit au contenu, au sujet de prière pour lesquels on prie souvent, est-ce que, en y regardant, on voit qu'on est plus captivé par Jésus, par Dieu, ou plus par nous-mêmes? Est-ce qu'on prie plus souvent que son règne vienne, que sa volonté soit faite, pour son renom à lui, sa réputation à lui? Ou est-ce que c'est plus pour notre pain quotidien, ou nos vacances, ou notre confort? Encore une fois, je n'ai pas dit qu'on ne devrait pas prier pour ces choses. Mais quelle est la proportion et qu'est-ce que cela nous enseigne par rapport à nous-mêmes? Peut-être qu'il serait juste de nous repentir. Et si on lutte justement pour avoir une juste proportion, alors méditons la première partie de Colossiens pour que nous soyons captivés tout à nouveau par Christ, la bonne nouvelle, et que nous soyons dévoués au progrès de l'Évangile dans nos vies et autour de nous. Alors, j'ai oublié de le prendre, mais dans le livre excellent, La prière renouvelée, j'imagine qu'il est là dans les... Oui, il est là, de Don Carson, un excellent auteur chrétien. Il nous donne une autre raison pour laquelle on n'est parfois pas très persévérant dans la prière. Il dit que les chrétiens manquent souvent à leur appel de prier parce qu'ils ne sont pas assez intentionnels, tout simplement. Et je constate que quand je passe des saisons par lesquelles je prie pas assez, c'est quand je laisse d'autres responsabilités que je ne dois pas négliger, mais d'autres choses ou des distractions prendre le dessus. Et je ne suis pas assez intentionnel dans ce qui est important. Il y a quelque temps, j'ai aussi lu une citation de Spurgeon qui disait quelque chose de similaire. « Pas le temps de prier, il disait. As-tu eu le temps de t'habiller ?» Il y a un temps pour chaque chose sur terre. Si tu avais décidé de prier, tu l'aurais fait. Le manque de persévérance, je pense que c'est un péché. Donc, il faudrait se repentir. Je pense que notre culture de l'instantané ne nous aide pas aussi. Du commande Amazon en un clic, ou au lendemain livré, ou d'autres choses. Ce qui fait peut-être qu'on est encore moins persévérant que dans le passé. Du coup, quand on prie, on est peut-être assez vite découragé de ne pas avoir des réponses rapides en un clic. Et on a aussi l'impression d'être passif. Peut-être qu'on ne fait rien, comme j'ai dit tout à l'heure, et du coup, on arrête de prier, on ne persévère pas dans la prière. Mais ce n'est pas du tout vrai. Avec la proclamation de la bonne nouvelle, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est prier pour le progrès de l'Évangile dans nos vies, dans notre Église et autour de nous. Rappelez-vous, quand vous êtes devenu chrétien, ce n'était pas la première, forcément, écoute de l'Évangile. En tout cas, c'est très rare. Et donc, les gens que nous voulons voir venir à Christ, ce ne sera pas forcément à la première proclamation, au premier partage. Persévérons dans la prière. C'est ainsi que Dieu œuvre, en réponse aux prières persévérantes. Et je pense qu'il le fait exprès, aussi pour travailler notre caractère, nous faire grandir en sainteté. Voilà quelques raisons non exhaustives de pourquoi on lutte dans la persévérance de la prière. Quelques astuces pour nous aider pourraient être d'utiliser PrayerMate, il y a une application où on a les sujets de prière, d'utiliser le livret, c'est utile aussi, où est-ce qu'il est, là, pour prier, pour le progrès de l'Évangile, s'entourer de personnes. s'encourager, venir au rayon de prière de l'église le jeudi soir, une fois par mois, ou même trouver un chrétien de cette assemblée, préférablement si c'est juste deux personnes ensemble, du même sexe. Il y a des raisons, il y a des bonnes raisons là derrière. On pourrait en parler. Mais c'est pour s'exhorter, pour rester accroché à Jésus et progresser dans la prière ensemble pour le progrès de l'évangile. Peut-être que vous avez d'autres astuces, d'autres idées, vous avez un journal de prière, je ne sais pas. Pourquoi pas échanger ça, partager entre vous. En tout cas, depuis 2000 ans, je termine là-dessus, Dieu a souverainement fait progresser son évangile pour sa gloire et le salut de millions de personnes. Et dans cette œuvre, il n'a cessé d'utiliser la proclamation imparfaite de personnes sauvées par grâce, en réponse à des millions de prières, de personnes souvent impatientes. Mais il a fait souverainement pour faire preuve de grâce, de compassion. Et la stratégie PP que Dieu a choisie, c'est par la proclamation proactive et la prière persévérante. Est-ce que vous n'avez pas envie de faire partie de ce plan de salut jusque quand Jésus revient? De voir d'autres être au bénéfice de cette même grâce que vous, que nous? Alors soyons un peuple, une église, des chrétiens proactifs dans la proclamation. Non seulement le dimanche ou le vendredi soir lors d'un événement, mais tous les jours. Et exhortons-nous, équipons-nous les uns les autres dans cette perspective. Et prions avec persévérance. C'est la plus grande entreprise, n'est-ce pas? C'est l'entreprise qui a un impact pour l'éternité. Ne pas répondre à cet appel, à ces exhortations, ce serait tellement dommage. Prions pour terminer. Père Céleste, merci pour l'évangile qui nous est parvenu à nous 2000 ans après Paul. Merci pour ces personnes qui ont racheté le temps, qui se sont conduites avec sagesse envers nous et tous nos prédécesseurs. Merci parce que tu te plais à utiliser des hommes et des femmes que tu pécheurs mais sauvés par grâce pour faire progresser cette bonne nouvelle. Et on te prie que tu nous donnes par ton esprit la capacité mais aussi l'obéissance de le faire dans la joie dépendant de toi. Et sachant qu'on n'est pas seul, on est ensemble. On s'encourage les uns les autres, on prie les uns pour les autres et on s'exhorte et on s'équipe à mieux faire. Donne-nous de profiter de tout ce que tu mets à notre disposition pour faire cela. Pour ta gloire et la gloire de Jésus, nous te prions. Le salut du plus grand nombre. Amen.